Bonjour frères et sœurs, merci pour ces nouvelles de notre sœur et merci de l'avoir visitée, c'est très bien. Nous sommes heureux de nous retrouver. Vous avez les salutations des frères et sœurs, en tout cas des responsables et puis de l'église de Toulon où nous avons pu assister au culte il y a quelques dimanches. Donc nous sommes dans la joie et bénissons notre Dieu pour qu'ensemble nous puissions le louer comme on l'a fait ce matin, partager sa parole. Et donc, vous savez, il y a plusieurs semaines, donc on a vu ensemble ce texte de 1 Thessaloniciens et nous n'avons pas encore terminé cet épître de Paul. Nous nous sommes arrêtés au verset 21 du chapitre 5. Et puis après, j'ai eu à cœur de parler de la foi de ces femmes, de cette veuve, mais aussi de la Tsunamite et comment Élisée a témoigné de l'amour envers ces femmes en cherchant ce qu'il pouvait faire pour elles. Nous avons vu aussi parler de ce serviteur d'Élisée, Géasi, qui malheureusement, tout en étant bénéfice de la grâce de Dieu, à cause de ce qu'il avait dans son cœur, les attachements qu'il pouvait avoir, eh bien, ça l'a empêché d'être le serviteur qu'il aurait dû être. Et en tout cas, nous avons vu aussi que dans nos vies, nous pouvons avoir les obstacles qui peuvent nous empêcher de servir Dieu. Et même, il y a certains qui abandonnent la foi à cause de ces choses. Et donc, j'aimerais bien que nous revenions sur ce texte de Thessaloniciens, chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons juste voir les deux versets, les versets 23 et 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Mercredi, on a parlé de la réunion de prière et notre frère nous a encouragé à ne pas oublier les chrétiens qui étaient persécutés dans le monde, qui sont persécutés dans le monde. Et nous avons eu une pensée pour nos frères et sœurs. Nous avons prié pour eux. Et vous savez, il y a un site qui s'appelle Porte Ouverte qui donne des témoignages et qui raconte un peu la vie de ces chrétiens persécutés dans le monde. Et sur ce site, on trouve qu'ils disent qu'il y a plus de 380 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés, donc à cause de leur foi. Et une fois dans l'année, notamment au mois de novembre, ils organisent ce qu'on appelle la journée de l'église persécutée pour que les églises puissent mettre à part un temps pour prier pour ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Donc, nous n'attendons pas juste une fois dans l'année pour le faire, mais c'était très juste que notre frère nous rappelait de ne pas les oublier, de prier pour eux. Et donc, il y a quelques années, l'un des thèmes qu'ils avaient proposé pour cette journée de l'Église persécutée, c'était « Porteur d'espérance pour que brille l'Église de l'ombre ».« Porteur d'espérance pour que brille l'Église de l'ombre ». Et donc, la question que je me suis posée par rapport à cela, c'était donc « Quelle espérance pour le chrétien, et particulièrement pour celui qui est persécuté à cause de sa foi ?» Comment cette église de l'ombre, ces chrétiens qui sont obligés de se cacher pour se réunir pour faire comme nous faisons, à quelques nombres, pour pouvoir louer, célébrer l'Éternel, et comment, même ces chrétiens individuellement, peuvent briller. Et donc, nous voulons ce matin voir que nous pouvons, et ces chrétiens nous donnent cet exemple aussi, qu'ils trouvent la force dans le Seigneur, ils tiennent bon face à la persécution, et de manière plus large, que, à l'exemple de ces chrétiens, nous pouvons nous aussi trouver la force pour tenir bon face aux afflictions, face aux épreuves. Et quelle que soit la persécution que nous pouvons connaître, quelles que soient les afflictions que nous pouvons avoir, il est bon d'être fort. Il est bon de se préparer aussi pour que lorsque vienne le moment de l'affliction, que nous puissions être capables de résister et de tenir jusqu'au bout. Dans la Bible, il est fait mention des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi ou qui ont été persécutés à cause de leur foi. Et dans les Actes des Apôtres, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous trouvez beaucoup d'exemples de cela. Des chrétiens qui ont été jetés en prison, certains qui ont été tués, maltraités, d'autres qu'on interdisait de parler au nom du Seigneur Jésus. Donc tout cela, on le lit dans les Actes des Apôtres, et des personnes dans le monde vivent, connaissent encore cela aujourd'hui. Et même dans les Actes des Apôtres, nous disons que dans sa souveraineté, Dieu a même utilisé un homme qui persécutait les chrétiens pour que lui-même devienne chrétien et qu'il témoigne de la foi de Jésus et que lui-même ait été persécuté. Il s'agit de l'apôtre Paul qui dit lui-même qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance, dans l'incrédulité. Et donc, Dieu a arrêté cet homme sur le chemin de Damas et il a dit à l'un des chrétiens, Ananias, que cet homme-là qu'il avait sauvé était un instrument qu'il avait choisi pour porter son nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Donc, nous sommes encouragés vraiment à prier pour ces chrétiens, que Dieu leur donne la force pour tenir bon face à la persécution. Mais nous voulons aussi puiser dans leur exemple, vraiment que Dieu nous donne aussi, nous, la force pour tenir bon lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes éprouvés, que nous puissions trouver en Dieu la force nécessaire pour tenir bon. Et nous devons aussi prier pour les persécuteurs, ceux qui font du mal aux enfants de Dieu, que Dieu, dans sa grâce, puisse toucher leur cœur et qu'ils soient transformés, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Et parmi ces chrétiens qui ont été persécutés, il y a justement ces chrétiens de Thessalonique. L'apôtre Paul a témoigné de l'amour de Jésus lorsqu'il est passé à Thessalonique. Et il n'est même pas resté longtemps, quelques semaines, et il a dû partir précipitamment à cause justement des persécutions. Et ces chrétiens, eux-mêmes aussi, à cause de leur foi, étaient persécutés. On peut lire au chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 à 16. Thessaloniciens 2, à partir du verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs et qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Vous voyez, donc l'apôtre Paul, là, rappelle que, oui, ces chrétiens ont été aussi persécutés. Ils connaissaient la persécution, c'était des jeunes dans la foi. Et l'apôtre Paul leur dit, voilà, que tout comme ceux de Judée, vous aussi, vous avez été, vous êtes persécutés parce que vous avez reçu la parole de Dieu, la parole que nous avons annoncée, vous l'avez reçue comme étant la parole de Dieu, vous avez mis votre foi en Jésus, et c'est pour cela que vous êtes persécutés. Et donc, face à la persécution, face aux afflictions, face aux épreuves que nous pouvons rencontrer, il est bon de savoir que c'est en Dieu que nous pouvons trouver la force pour résister. Et l'apôtre Paul encourage ces chrétiens et dit que et dans sa prière, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment l'Église peut-elle briller alors qu'elle est persécutée? Comment le chrétien peut-il briller? Nous qui sommes la lumière de Christ, il est dit, comment pouvons-nous briller lorsque nous sommes affligés, persécutés à cause de notre foi? Comment pouvons-nous être porteurs d'espérance aussi? Et donc, l'une des réponses, c'est justement ce que l'apôtre Paul dit là dans sa prière, que nous venons de lire au chapitre 5, verset 23. Vous voyez, c'est que Dieu nous sanctifie lui-même. Et au chapitre 3, verset 13, il avait déjà dit que, il dit dans une autre prière, il disait que le Seigneur affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Et on le trouve dans 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Le chrétien a une espérance. Et c'est ce message aussi que nous voulons apporter à ceux qui sont là autour de nous. Et comme l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 3, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Gardez cela en tête. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et donc, le retour de Jésus est l'espérance du chrétien. C'est le moment où celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ va retrouver son Seigneur. Et donc, savoir qu'un jour, il sera semblable à lui. Donc, oui, nous avons cette espérance. Et en attendant justement le retour de Jésus, le Seigneur nous demande d'être des porteurs d'espérance, de témoigner de notre foi aux autres, et dans l'affliction aussi, et lorsque on est persécuté à cause de notre foi, c'est cette espérance qui nous permet de tenir bon et ne pas abandonner. Et une façon d'être porteur d'espérance, mais aussi de trouver en Dieu la force pour pouvoir résister face à l'épreuve, face à la tentation, face à la persécution, c'est de laisser Dieu continuer son œuvre de sanctification en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul il demande à Dieu pour ses chrétiens quand il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez Dieu continuer son œuvre de sanctification en nous. Sanctifier, c'est être mis à part. Dieu nous sanctifie lorsque nous mettons notre foi en lui. Et comme nous l'avons vu ce matin, Vous qui avez soif, venez. Lorsqu'on sait qu'on est comme cette terre aride, desséchée, et qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un Seigneur, on reconnaît qu'on va en enfer et qu'on a besoin d'être délivré de cela, on a soif de cette délivrance. Et donc, lorsque cette personne reconnaît en Jésus le Sauveur et Seigneur, et comme on l'a lu, cette personne reçoit l'Esprit de Dieu. Et donc, cette soif du Seigneur nous pousse à nous tourner vers Jésus-Christ, et ça c'est l'œuvre de Dieu, nous pousse à nous tourner vers Jésus-Christ. Et cette sanctification, lorsque Dieu nous prend et nous sauve, il nous fait devenir membres de sa famille, nous sommes des enfants de Dieu, membres du corps de Christ, il nous met à part pour lui, pour le servir, et nous fait devenir donc enfants de Dieu. Ça, c'est déjà une sanctification, le fait d'être sanctifié par Dieu, c'est le fait d'avoir été mis à part pour lui, et ça, c'est définitif, ce qu'on appelle une sanctification de position. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, l'apôtre Paul, il dit à ces chrétiens de Corinthe, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'adresse à des chrétiens et il dit que ces chrétiens ont été sanctifiés par Dieu. Au chapitre 6, verset 11, toujours dans 1 Corinthiens, il dit « Et c'est là ce que vous étiez en parlant de toutes sortes de péchés qu'ils pratiquaient avant. Il dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, ces chrétiens de Corinthe, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés, ils ont été lavés. Et donc, maintenant, il faut qu'ils vivent pleinement leur foi. Mais une fois qu'on a mis sa foi en Jésus-Christ, on a été mis à part par Dieu pour le servir, ça ne s'arrête pas là. Et je dirais que, un peu comme David, qu'on a lu, David dit, « Mon Dieu, j'ai soif de toi. » Est-ce qu'il avait soif de Dieu seulement pour pouvoir être sauvé ? Lorsqu'il dit « J'ai soif de toi », c'est tous les jours de sa vie qu'il avait soif de Dieu. Et on a l'impression que lorsqu'on prend conscience de son état, qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Dieu, cette soif de Dieu, on le reconnaît, on reçoit cette eau vive, et puis on peut penser que c'est terminé. Cette soif de Dieu n'est plus après la conversion. C'est comme un soufflet qui retombe. Et malheureusement, on peut se dire, mais ces personnes ont oublié que, au fait, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Cette soif de Dieu doit toujours nous animer pour continuer dans cette vie chrétienne. Et c'est ce que la Bible appelle justement cette sanctification qu'on appelle progressive. C'est une sanctification tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie chrétienne, nous devons dire comme David, j'ai soif de toi. Tout au long de notre vie, nous devons manifester cette soif, cette faim de Dieu, en nous nourrissant de sa parole, en nous abreuvant de ce qu'il a pour nous, etc., etc. Et malheureusement, nous constatons que dans la vie chrétienne, les chrétiens oublient que ce n'est pas juste dire « voilà, je suis un chrétien, je suis sauvé et la vie est belle ». Ce n'est pas tout. On voit la réalité de cela si le chrétien continue à toujours avoir soif de son Dieu. Cette sanctification progressive, c'est de cela qu'il s'agit. L'apôtre Paul, il prie que Dieu, le Dieu de paix, les sanctifie lui-même tout entier pour que tout votre être, qui dit l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on ne laisse pas Dieu accomplir cette œuvre de sanctification en nous, progressivement pour que nous ressemblions à Jésus-Christ, jusqu'à, il est dit, l'avènement de notre Seigneur, jusqu'à son retour, ou que s'il nous rappelle à lui par la mort, alors nous devons continuer, laisser Dieu opérer en nous cette œuvre de sanctification qui est justement pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a laissés là. Pour que nous puissions être porteurs d'espérance, mais pour être porteurs d'espérance, on doit laisser Dieu nous transformer pour montrer aux autres que nous sommes différents. Et si les gens ne voient pas en nous cette transformation, quelle espérance pouvons-nous leur donner? Puisqu'ils nous voient vivre, parfois même faire des choses pires que ce qu'eux-mêmes ils font. Mais pour leur montrer que, oui, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a été changée, ma vie a été transformée. Et les gens voient des transformations, les gens voient des changements dans notre vie, puisque Dieu opère une transformation à l'intérieur et cela se voit à l'extérieur. Et ça, c'est grâce à la sanctification, cette sanctification progressive, l'œuvre de Dieu en nous par son esprit qui se voit. Et donc, nous devons laisser le Seigneur agir en nous. Et pour cela, à nous d'avoir toujours soif de notre Seigneur. Alors, on peut se poser la question, depuis le jour de notre conversion, lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on fait un point sur notre vie, est-ce que j'ai encore soif de mon Seigneur? Est-ce que j'ai encore soif de Dieu? Est-ce que comme David, je lui dis, oui, j'ai soif de toi? Et si on répond oui, comment je le manifeste, cette soif de Dieu, au quotidien? Et donc, pour que Dieu opère cette œuvre de sanctification ou de transformation, nous devons le laisser agir en nous. Dieu est à l'œuvre par son esprit qui habite en nous, nous qui avons mis notre foi en lui et qui l'avons réellement reçu comme sauveur et seigneur. Et son Saint-Esprit agit en nous. Et dans 2 Corinthiens, il est dit que nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc tout chrétien digne de ce nom doit pouvoir dire, voilà, ma vie, Dieu la change. Ma vie a été transformée et Dieu continue son œuvre en moi. Celui qui vous a appelé fidèle est celui qui le fera. Si on ne peut pas le dire, ça voudrait dire que Dieu a menti. Dieu n'a rien fait dans notre vie. Alors, ce n'est pas Dieu qui a menti. C'est peut-être nous qui n'avons pas l'esprit. Nous pouvons nous dire, oui, on croit en Jésus, on a l'esprit, mais ce n'est pas vrai. Donc, il faut être honnête. Puisqu'il nous a donné son esprit, et son esprit nous transforme en la même image, donc à l'image de Christ, de gloire en gloire, ça veut dire progressivement. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Dans Philippiens, on peut juste tourner quelques pages, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, il dit, « Ainsi mes bien-aimés, verset 12, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voyez ? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 13, il dit aussi au verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu qui nous rend capables. Et si Dieu nous rend capables, c'est parce qu'il nous a donné son esprit. Et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc Dieu est à l'œuvre par son esprit. Dieu utilise aussi les épreuves de la vie pour nous sanctifier, pour nous faire grandir, pour nous faire progresser. Dans Hébreux chapitre 12, il dit, voilà, comme un père châtie son enfant, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Et il veut que nous participions à sa gloire. Dieu nous sanctifie par sa parole qui est agissante. Le Seigneur Jésus lui-même, il a prié pour ses disciples et il a demandé au Père, de sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc ça nous rappelle que si nous voulons que Dieu nous sanctifie, donc nous fait grandir en sainteté pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, ça implique que nous lisons cette parole, que nous la méditons et que nous ayons soif et faim de cette parole. Si on ne lit pas la Bible, si on ne s'instruit pas, si on ne vient pas aux études bibliques pour être où on étudie la Bible, c'est pour ça qu'on appelle études bibliques, si on vient une fois sur deux au culte, tous ces moments que Dieu veut pour nous faire grandir dans la connaissance de sa parole, alors c'est tout ça qui nous peut nous dire, mais en fait, est-ce que vraiment j'ai soif et faim de la parole de Dieu? Mais je vous dirais, comme dans tout, Dieu ne forge jamais la main. Et nous aussi, on ne va pas le faire. Hein. Parce qu'il y a une vérité, c'est que chacun est responsable devant Dieu de sa vie spirituelle. Chacun est responsable devant Dieu. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait de bien ou de mal. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura pu faire alors qu'il lui a donné son esprit. Donc il y a la responsabilité du croyant. Si nous voulons briller, si nous voulons être justement porteurs d'espérance, montrer aux autres que nous sommes différents, montrer aux autres que voilà, le chemin que nous avons pris, c'est le bon chemin, et qu'il soit encouragé par notre vie, par nous voyant vivre, de vouloir suivre ce chemin-là aussi, alors nous devons laisser Dieu opérer en nous son œuvre de sanctification. Et donc, pour le faire, comme je l'ai dit, c'est notre responsabilité de consacrer du temps à la lecture de la parole de Dieu. Quotidiennement, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, de la même manière qu'on a besoin de se nourrir physiquement, on a besoin de se nourrir spirituellement. Donc, c'est à chacun de mettre à part un temps pour la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Efficace, il est dit dans Hébreux, et qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et Dieu utilise sa parole pour, comme ça a été dit, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger. Dieu utilise sa parole. Il faut juste que lorsque nous l'ouvrons, que nous nous rendons compte et que nous nous rappelions que c'est la parole de Dieu, que nous venions devant la parole avec un esprit disposé pour être à l'écoute de la parole de Dieu, et que lorsque nous la lisons, nous ne la refermons pas et puis dire hop, c'est fini. Si le Seigneur met le doigt sur quelque chose dans notre vie qui doit être corrigé, il attend de nous que nous obéissions, que nous délaissions ce qui n'est pas à sa gloire. Et tant que nous ne laissons pas cette parole agir en nous, alors il n'y aura pas d'œuvre de sanctification. Nous allons rester un bébé spirituel. Mais Dieu ne veut pas que nous restions des bébés spirituels, il veut que nous grandissions. Il veut que nous grandissions en maturité, que nous soyons des hommes faits, des hommes et des femmes faits. Et donc, cette soif de Dieu qu'on a parlé ce matin, c'est tous les jours. Tous les jours, nous devons avoir soif de Dieu. Et pour cela, il faut, le Seigneur nous demande de ne pas seulement écouter, mais aussi de mettre en pratique. Et ça, on pouvait le lire dans Jacques chapitre 1, versets 21 à 25. Est-ce que vraiment dans notre vie, nous recherchons la sanctification? Est-ce que vraiment nous avons envie de progresser? Est-ce que vraiment nous avons envie de ressembler à Jésus-Christ? Et l'apôtre Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on marche selon la chair, ben, on fait toutes sortes de choses comme des inconvertis. Et même il dit que ceux qui vivent d'une certaine manière dans l'impudicité, etc., ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Pour dire que selon notre manière de vivre, on peut dire qu'on est chrétien, mais si on vit comme ça, alors il dit, t'es pas un enfant de Dieu. Mais il dit que si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Esprit, et c'est là qu'on va voir le fruit de l'Esprit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Et donc, cette œuvre de sanctification se fait si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, si on prend le temps de lire la parole, et petit à petit, on va voir que Dieu va nous transformer. Il va nous faire de nous, comme il est dit dans ce verset, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette œuvre de sanctification concerne notre être tout entier, esprit, âme et corps. Le Seigneur opère de l'intérieur et cela se voit à l'extérieur. Donc si nous laissons continuer son œuvre en nous, si nous laissons le Seigneur continuer son œuvre en nous, en nous soumettant à sa parole, en nous laissant conduire par son esprit, notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu sera plus forte, notre être intérieur sera plus serein et notre relation à l'autre plus apaisée. L'apôtre Paul il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'apôtre définit Dieu comme étant le Dieu de paix. Et je crois que c'est ce que nous avons tous besoin lorsque nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. Lorsque ces chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, ils ont besoin de la paix de Dieu. Et le Seigneur leur donne sa paix parce que ils appartiennent à Dieu. Et en cette paix avec Dieu, ils savent qu'ils l'ont trouvée lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Comme la Bible dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, dans Romains chapitre 5. Et donc, une fois qu'on a trouvé la paix avec Dieu, c'est sa paix aussi qui nous remplit lorsque nous venons, nous déversons aux pieds du Seigneur nos inquiétudes et toutes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer au quotidien. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Philippiens, il dit aux chrétiens de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il dit avec des actions de grâce et il ajoute que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'on est affligé, lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est éprouvé, et notamment à cause de sa foi, je dirais qu'il faut, on peut résister, on pourra tenir ferme, on pourra continuer et ne pas renier le Seigneur parce qu'on s'est préparé à l'avance. Ce n'est pas lorsqu'on est dans l'épreuve que notre foi va faire un bond. Il faut s'y préparer. Ce n'est pas lorsqu'il y a une compétition que l'athlète arrive et puis dit, voilà, moi je veux faire le Tour de France sans être... Ce n'est pas possible. Si on ne se prépare pas à l'avance, si l'athlète veut participer aux Jeux Olympiques, eh bien, c'est des années de travail. Et là, ils viennent de terminer l'année dernière. Dans leur tête, c'est l'année d'après. Et ils savent qu'ils ont encore besoin de progresser. Et ça, on ne les voit pas, mais c'est un travail quotidien d'effort, de souffrance, pour pouvoir, le jour J, être prêt. Et frères et sœurs, je peux vous dire que lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est vraiment affligé, lorsqu'on est persécuté par des collègues, par un patron, par au fait, le réflexe de trouver en Dieu la force dont on a besoin vient parce qu'on a pris l'habitude de le faire. Lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de lire la parole, lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de trouver en Dieu ce dont on a besoin pour le quotidien, même dans les choses les plus simples, c'est pas lorsqu'on est dans la fournaise on va dire, on aura cette super force. Donc, au fait, j'aimerais vraiment nous encourager à avoir constamment cette soif de Dieu. Constamment avoir cette soif de Dieu pour que Dieu nous remplisse et que lorsqu'on est dans l'affliction, qu'on sache trouver en Dieu les ressources pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir ferme et pour pouvoir après, une fois passé cette épreuve, alors qu'on puisse continuer, mais en tout cas, il faut passer l'épreuve. Après, on comprend que cette épreuve, Dieu a permis pour que nous puissions encore grandir davantage. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Cette sanctification progressive, elle va s'achever de deux manières. Soit par la mort, et le Seigneur changera, d'y parler de notre corps et nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, où nous serons semblables à lui, comme il est dit dans 1 Jean. Ou soit, si on ne connaît pas encore la mort, c'est parce que si le Seigneur revient et nous prendra avec lui, notre corps sera changé, et donc nous serons semblables à lui. Et donc, tant que nous sommes encore là, tant que le Seigneur laisse ce souffle de vie, nous devons continuer à vouloir ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur remplisse nos cœurs et ce désir, cette soif de mieux le connaître. On a chanté le premier chant qui dit « On célébrer et nous voulons célébrer, ne pas négliger, on le célèbre par nos dons, etc. » Et dit « En n'oubliant pas la sanctification. » Il ne faut pas oublier la sanctification. Donc laissons Dieu agir en nous, laissons Dieu opérer son œuvre en nous, et que nous puissions grandir, puisque c'est de là que va découler, au fait, l'utilisation des dons que Dieu nous a donnés, notre vie avec les uns et les autres, et le progrès, et comment on peut briller autour de nous. Voilà, je vais m'arrêter là, que le Seigneur bénisse sa parole, que nous puissions avancer avec notre Seigneur, avec la force qu'il nous donne. Amen.